La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartiers, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Immo.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo dans ce deuxième numéro de la Maison de l'investisseur. Pour m'accompagner, un spécialiste de l'investissement, Stéphane Descartiers, fondateur de l'entreprise La Maison de l'investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Eh bien écoutez, parfait, je suis ravie de faire cette émission, comme chaque mois. Alors, chaque quatrième mercredi du mois, à 10h10 pétante, on se retrouve. Vous l'aurez compris, pour un focus investissement, investisseur confirmé ou en herbe, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre et à nous les poser via les réseaux. Cher Stéphane, quelle est la devinette du mois ?
Alors, c'est le match neuf et ancien, puisque c'est souvent une question que se posent les investisseurs entre les avantages du neuf et de l'ancien. Parfois, c'est un petit peu compliqué à comprendre ou à décoder. Donc, c'est effectivement ce qu'on se propose aujourd'hui de creuser.
Eh bien, écoutez, on se retrouve juste après ça pour en parler. Jingle.
La maison de l'investisseur, la devinette du mois.
Alors, la question qui va nous occuper ce mois-ci, c'est savoir s'il faut préférer le neuf ou l'ancien pour investir. Par quoi on commence, cher Stéphane ? Parce que ça me semble être une question en fait qui dépend de beaucoup de facteurs.
Oui, bien sûr. Alors, déjà, peut-être préciser, entre l'ancien, entre une ruine à refaire complètement ou un immeuble récent de moins de 5 ans ou un immeuble haussmannien refait à neuf, il y a une très grande variété de biens, bien évidemment, dans l'ancien. Et puis, dans la même rue, hein, entre un très bel immeuble art déco refait et puis un immeuble des années 60 avec les gros travaux qui arrivent, on pourra avoir des prix qui vont varier du simple au double. Donc, par produit ancien, aujourd'hui, on entend un bien standard sans défaut ni plus-value majeure. Voilà, un bien tout à fait standard.
Donc, et par bien neuf, du coup, parce que c'est la question que je me posais en vous écoutant, c'est de savoir si un bien neuf, c'est un bien qui est en cours de réalisation, de construction, ou si c'est aussi un immeuble qui aurait 2-3 ans et qu'on considérait encore comme neuf.
Comme du très récent. Alors là, on va s'intéresser aujourd'hui à un bien neuf, donc qui va être vendu la plupart du temps en vente en état futur d'achèvement, pour pouvoir notamment bénéficier des conditions Pinel, hein, avec des réductions d'impôts à la clé, mais aussi des contraintes. Ouais.
Alors la vente en l'état futur d'achèvement, c'est bien que l'on acquiert sur plan,
tout
c'est
à
bien
fait.
Ça
Oui, c'est la vente sur plan, ouais, tout à fait.
Exactement, donc il y a un délai aussi, je crois.
Il y a un délai d'attente, hein, qui peut être de quelques mois jusqu'à 2 ans, hein, à peu près, si on arrive en début de commercialisation.
Pour nos auditeurs, pendant ce délai, est-ce qu'il y a quelque chose à payer ou pas du tout ?
Oui, on va avoir à payer en général les intérêts intercalaires notamment, et on va avoir à payer au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des appels de fonds, donc le crédit au fur et à mesure du déblocage de ce crédit. Donc il y a quand même quelques frais à prévoir. Mais on peut prévoir aussi avec sa banque des franchises pour que le remboursement du crédit ne démarre qu'à la livraison. Ça aussi, c'est possible. Il faut le prévoir avec son partenaire bancaire à l'origine.
Ça coûte de l'argent, je crois.
Oui, ça coûte de l'argent. Alors, ce qu'on ne paye pas de toute façon pendant la construction, on le paye après. Donc, ça augmente un petit peu les mensualités ensuite à la livraison, bien sûr.
Bien sûr. Bon, maintenant qu'on a défini ce que c'était que le neuf et l'ancien, alors, qu'est-ce qui fait que moi, Madame Michu, je vais me diriger en fonction de qui je suis, de ma situation, plutôt vers un bien neuf ou plutôt vers un bien ancien ?
Alors, ça va dépendre notamment de deux critères. Notamment, le premier, c'est que si vous avez une recherche très précise en termes de secteur, en termes de quartier, ou alors sur une ville moyenne où il n'y a pas de neuf, si vous avez une recherche ultra précise, vous pouvez avoir la chance qu'il y ait un programme neuf sur le secteur, mais parfois il n'y en aura pas. Très souvent, il n'y en aura pas, puisque le marché de l'ancien est beaucoup plus important. Donc la question ne se pose pas. Il faut faire de l'ancien. De la même façon, ce qu'on disait, si vous avez un besoin immédiat, c'est-à-dire dans 2-3 mois pour le loger un enfant étudiant, par exemple, également le neuf, hors exception, hors un programme qui va être un retour de l'eau, notamment, qui va pouvoir être en livraison rapide. Aujourd'hui, le neuf est quand même très demandé. C'est un marché qui est très dynamique. Donc, dans l'immense majorité des cas, vous réservez un bien et il va être livré 15 mois, 18 mois, 2 ans après. Donc là, bah, il faudra patienter, effectivement.
Si tant est qu'il n'y ait pas de retard pris en plus, parce que c'est souvent le cas en matière de travaux.
Oui, surtout avec le Covid, là, c'était un petit peu compliqué sur les chantiers pendant quelques temps.
On peut imaginer, en plus, que dans la situation actuelle, en tout cas pour ce qui concerne la France, avec ses obligations notamment de non-artificialisation des sols, ces mairies qui sont passées pour certaines écologistes et qui refusent de plus en plus d'octroyer des permis de construire, on imagine bien que le neuf étant très prisé, va probablement se raréfier aussi un petit peu dans les années à venir, donc le sera encore plus.
Oui, on peut le craindre, effectivement, et notamment, enfin, c'est déjà en marche, notamment pour l'artificialisation des sols, notamment parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais déjà, depuis cette année, on ne peut plus investir sur une maison neuve pour faire une opération Pinel, c'est terminé.
Je crois qu'il faut qu'elle soit trois à coller, non ?
Il y a pas une histoire. Il faut qu'elle soit en bande, en copropriété, etc. Auquel cas là, c'est encore permis. Mais une maison individuelle, comme on pouvait le faire dans le passé, une maison individuelle non mitoyenne pour faire un Pinel, c'est terminé déjà.
C'est pour éviter le mitage territorial.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Très bien. Alors, du coup, on a bien compris que si j'avais un secteur de prédilection, l'ancien, c'était quand même peut-être plus simple.
Oui, parce que de l'ancien, il y en aura partout, effectivement. Il suffit de chercher un petit peu, de se mettre en alerte, et puis on pourra trouver un bien plus ou moins rapidement, mais on va pouvoir effectivement trouver quand même de l'ancien. Quand il n'y a pas le neuf, il y a toujours de l'ancien à vendre, bien sûr. Alors, le deuxième cas également, qui est vraiment très important, qui là, met vraiment une différence très substantielle entre le neuf et l'ancien, c'est votre situation fiscale, Charlotte. Puisque, effectivement, l'ancien... en général, sur les secteurs, va être plus rentable. Vous aurez plus de rendement sur de l'ancien que sur du neuf, tout simplement parce que l'ancien est moins cher que le neuf. La plupart du temps, sur des secteurs, on pourra avoir des différences de prix entre le neuf et l'ancien de 20, 30%. Donc l'ancien, vous le payez bien sûr moins cher. Donc vous avez plus de rendement, puisque les loyers ne vont pas être si différents entre le neuf et l'ancien. Donc ce que vous payez 100 pour un loyer de 50, eh bien si vous achetez 130 pour le même loyer de 50, ben, c'est pas difficile de comprendre qu'effectivement on a plus de rendement sur l'ancien. On a plus de choix, bien sûr, puisque il suffit effectivement de prospecter, on va trouver des biens en ancien. On a plus de souplesse également, puisque on n'a pas de plafond de loyer comme on peut en trouver en Pinel. On peut louer à des gens sans qu'il y ait forcément des plafonds de ressources également, comme avec le dispositif Pinel. Et puis, on peut revendre quand on veut. On peut sortir de l'opération quand on veut. On peut mettre ses enfants, ses parents, son beau-frère. On n'a pas de contraintes. Donc, effectivement, si on est dans une petite tranche d'imposition, et on va comprendre pourquoi, il vaut mieux préférer l'ancien.
Donc, plus de flexibilité sur l'ancien.
Plus de souplesse, plus de flexibilité, plus de rendement. Mais, effectivement, et là, on en arrive au souci principal de l'ancien, c'est que si vous êtes dans une tranche d'imposition élevée, vous allez payer beaucoup d'impôts sur vos loyers.
Puisque... Alors, qu'est-ce qu'on appelle une tranche élevée ?
Alors, une tranche marginale d'imposition, c'est vos revenus professionnels vous amènent effectivement à un revenu de X, ce qui va vous donner une tranche d'imposition. La première tranche d'imposition, aujourd'hui, elle est à 11%. Ensuite, vous passez à 30%. Et ensuite à 41% et 45% pour la tranche la plus élevée, auquel il faut rajouter pour les revenus fonciers la CSG. Donc si vous êtes non imposable, vous n'avez que la CSG, donc là c'est pas trop douloureux. Mais si vous êtes par exemple sur une tranche à 11% d'impôt, vous rajoutez 11% plus la CSG, ce qui vous mène déjà à 28,2%. Et si vous êtes sur une tranche à 30%, n'importe quel couple de cadres va être sur une tranche à 30%, 30% plus la CSG à 17,2%, vous êtes à 47,2% pour pas dire la moitié. C'est-à-dire que sur 10 000 euros de loyer de net fiscal foncier que vous allez déclarer, eh bien vous allez avoir près de 5 000 euros d'impôts. Donc, qui va repartir en impôts et en CSG. On ne parle même pas de la taxe foncière et on ne parle même pas de l'IFI. Donc, ce qui fait que votre rendement facial qui va être de 6 ou 7%, vous allez retomber à un rendement, si l'impôt vous en prend la moitié impôt et CSG, à 3 ou 4%.
Alors, si je résume bien, vous m'arrêtez si je me trompe.
Oui, bien sûr.
Je ne suis pas imposable. Bon, on imagine que quand on n'est pas imposable, la possibilité d'investir, elle est quand même assez limitée. Toutefois, si je ne suis pas imposable, ça ne va être que la CSG, donc 17,2%.
Tout à fait.
Si je suis dans la première tranche d'imposition à 11%, je vais à peu près donner un tiers de ce que je gagne.
À peu près 28%,
en impôt.
Un peu moins de 30%, oui, tout à fait.
Et si je suis par contre dans la tranche à 30, là je vais donner à peu près la moitié.
Voilà, donc là ça devient problématique effectivement, parce que les forts rendements qu'on peut trouver effectivement sur l'ancien sont clairement plombés par les impôts, par votre tranche d'imposition, plus la CSG derrière. Donc bon, bah, c'est quand même extrêmement douloureux. Donc là, à partir, on peut estimer qu'effectivement, sur une tranche d'imposition à partir de 30% plus la CSG, le neuf reprend effectivement... L'avantage, parce que là vous avez effectivement la fiscalité, vous avez moins de rendement sur du neuf, puisque le rendement du neuf aujourd'hui va être autour de 3,5 jusqu'à 4% par exemple en Pinel.
C'est quand même faible.
Oui, c'est plus faible. C'est plus faible par rapport à de l'ancien, où on peut trouver encore sans trop de difficultés aujourd'hui du 6-7% sur des villes moyennes ou en deuxième ou troisième couronne. Mais à ce rendement qui est plus faible en neuf, cette fois-ci la fiscalité ne vient pas plomber l'opération, mais au contraire, elle vient... lui apporter la fiscalité intervient là comme un bonus, puisque ça ne va pas être là pour le coup des flux négatifs, mais des flux positifs, puisque vous allez pouvoir avoir des économies d'impôts qui vont arriver sur votre opération en neuf, soit en Pinel, soit également des opérations très intéressantes, notamment en déficit foncier, qui là vont, avec beaucoup, beaucoup de travaux, qui là vont venir effectivement absorber vos impôts, vos revenus fonciers et la CSG. Donc là, effectivement, c'est le. À peu près sur autour de la tranche à 30%, où il faut se poser la question, parce que le rendement facial, c'est bien joli, mais il faut considérer l'impôt, parce que l'impôt est très lourd sur les revenus fonciers. Et finalement, là, l'impôt qui, cette fois-ci, est un flux positif dans l'opération, vient améliorer grandement le rendement de votre opération. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pouvoirs publics ont créé des lois de défiscalisation depuis 25 ans. C'est pour pousser les investisseurs à aller vers le neuf, parce que ça crée des emplois, on a besoin de logements, et on se récupère comme ça. Moins de rendement, mais des économies d'impôts qui font que, au global, l'opération concurrence largement une opération dans l'ancien.
C'est ça, donc j'allais vous poser la question, justement, on est à peu près kiff-kiff finalement.
Voilà, on arrive sur des performances qui sont à peu près équivalentes, mais il faut aussi reconnaître que le neuf a l'avantage, on n'a pas de travaux pendant des années, est aux normes, aux dernières normes, et ça, il faut en parler aussi, parce que l'ancien, aujourd'hui, on va avoir des obligations de travaux à faire sur l'ancien. Donc voilà.
On peut aussi avoir des mauvaises surprises, néanmoins, même s'il y a les dommages ouvrage, toutes ces assurances post-fin de la construction.
Oui, tout à fait.
Il peut quand même y avoir des mauvaises surprises aussi dans le neuf. Je crois qu'il faut aussi bien choisir son constructeur. C'est quand même quelque chose d'important.
Oui. Les investisseurs sont bien protégés sur la vente en état futur d'achèvement, puisque maintenant, depuis 3-4 ans déjà, les garanties bancaires d'achèvement sont obligatoires. Donc, il ne peut pas y avoir de crash complet, comme on peut le voir sur certaines opérations de maisons individuelles, où parfois les constructeurs ne sont pas assurés pour la fin de l'opération. En vente en état futur d'achèvement, en tout cas sur les copropriétés, il n'y a pas de souci, mais il peut y avoir de gros retards de travaux, ça c'est clair. Il peut y avoir des défaillances d'entreprise, il peut y avoir des malfaçons, mais globalement, en tout cas, les investisseurs sont plutôt bien protégés pour la vente en état futur d'achèvement. Les promoteurs font quand même ce qu'il faut, surtout les promoteurs nationaux. Les grands promoteurs ont quand même une image, effectivement, à défendre. Donc, il leur arrive à tous d'avoir des problèmes, mais les problèmes se règlent quand même quand vous avez affaire à des grandes maisons. Il peut y avoir des soucis, mais ils se règlent quand même assez rapidement, parce que là, c'est la marque aussi qui est en jeu.
Bien
donc,
sûr.
Bon, en général, ça se passe quand même bien et les problèmes se règlent assez rapidement.
C'est certain qu'on a moins de travaux sur du neuf, en tout cas les premières années, mais pour avoir déjà entendu parler de cela, la vitesse de dégradation des immeubles neufs est de plus en plus rapide.
Oui, alors ça dépend effectivement sur quel type de neuf on parle. Il faut être attentif également notamment à la qualité des matériaux de construction lorsque on se lance dans une opération en neuf. C'est vrai qu'il y a eu du progrès quand même de fait. Je pense que les périodes aujourd'hui qui étaient quand même un peu compliquées, c'était notamment les années 80 où il y avait notamment des crépis, etc., qui n'étaient pas terribles, qui vieillissaient assez vite. Aujourd'hui, depuis
des problèmes d'étanchéité,
etc., les toits terrasses, c'est un peu peu compliqué. Il faut quand même refaire les étanchéités tous les 10 ans. Ça, ouais. On peut pas y échapper. Donc voilà, il y a quand même des choses un petit peu à examiner comme ça. Mais globalement, les promoteurs ont fait quand même pas mal de progrès depuis le début des années 2000. Enfin, je sais que notamment des programmes qu'on a commercialisés il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, ça se tient plutôt mieux que dans les années 80. Les promoteurs ont plutôt fait des progrès
des
dans ce sens-là. Ouais, tout à fait.
Ah, bah, c'est une bonne nouvelle, j'imagine. Oui. Alors, je vous pose la question, là, je vais vraiment raccrocher ça à votre expertise quotidienne, hein, en tant que président et fondateur de la Maison de l'Investisseur. Quand vous avez un client qui s'adresse à vous et qui a un projet d'achat dans le neuf, est-ce que vous, en tant qu'accompagnant là-dedans, vous vérifiez un petit peu justement quel type d'immeuble, quel constructeur ?
Oui, bien sûr. Ouais. Bah, le choix du constructeur, c'est effectivement ultra important. C'est pas forcément des constructeurs nationaux, mais si c'est des constructeurs régionaux, il faut vérifier leur antériorité, ce qu'ils ont fait, aller visiter des immeubles, etc. Et puis, la qualité des matériaux, notamment, ça on le voit très bien sur les notices descriptives. On se rend très bien compte, mais bon, alors pour un particulier lambda, c'est peut-être pas forcément évident. Bon, pour nous, ça l'est un petit peu plus, parce que c'est notre quotidien et on a l'habitude de pouvoir lire entre les lignes aussi sur les descriptifs de matériaux, notamment pour bien comprendre quel va être le standing de l'immeuble, quelles vont être les qualités des matériaux. Et ça, c'est très éclairant pour la suite et l'entretien et comment ça va se passer, bien sûr.
Bon, bah très bien. Bah, je crois qu'on a plutôt bien compris qu'en gros, si j'étais dans une tranche élevée d'imposition, il allait falloir que je m'oriente plutôt vers le neuf. Ce serait plus avantageux pour moi. Mais du coup, si vraiment je suis attachée à l'ancien, c'est quoi mon alternative ?
Alors, si vous préférez l'ancien, parce que l'ancien est très intéressant, il y a plus de choix. Il peut y avoir potentiellement du charme aussi hein, sur certains biens anciens. Donc, c'est intéressant. Alors, si vous ne pouvez faire qu'une seule opération, ce qui peut être pas mal, c'est de faire une opération avec beaucoup de travaux. Parce que ces travaux, vous allez pouvoir les déduire de vos loyers futurs. Donc ça, c'est intéressant aussi avec le mécanisme du déficit foncier. Donc si vous faites de l'ancien...
Donc là, on retrouve un peu l'opération du neuf voilà, où on va venir déduire et avoir un avantage en nature à côté. Si
tout à fait, c'est bien ça. Donc plutôt à ce moment-là, de l'ancien très dégradé, vous allez pouvoir faire de gros travaux ou des opérations qui sont montées par des opérateurs en ce qu'on appelle en déficit foncier. Donc là, c'est intéressant parce qu'effectivement, ces travaux, vous allez pouvoir les imputer sur vos loyers pendant 10 ans. Donc, ce qui fait que globalement, vous pourrez avoir une fiscalité qui va être neutralisée pendant 10 ans grâce à vos travaux. Donc ça, c'est intéressant. Et de toute façon, sur l'ancien, ça aussi, il faut bien se le dire, la période où on pouvait acheter de l'ancien dans son jus, donc plutôt pas cher parce qu'il n'était pas dans un état extraordinaire, et se dire, bah, ma foi, advienne que pourra, on va louer plein pot, et puis bah, les travaux, on verra, etc. C'est terminé, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, avec notamment la loi climat, on impose, et on imposera de plus en plus, à la fois aux propriétaires de résidences principales, mais y compris aux bailleurs, de rénover ces biens pour qu'ils aient notamment des conditions d'isolation, notamment thermiques, qui soient beaucoup plus importantes. Et vous le savez, Charlotte, notamment déjà pour tout ce qui est bâtiments donc classés F et G, c'est-à-dire entre guillemets les passoires thermiques,
hein,
elles seront interdites à la location dès 2023. Ouais. Ça devait être 2028, ça a été ramené à 2023, donc 2023, c'est demain matin. Et puis également sur les secteur tendu, tout ce qui est bâtiment donc en F et G, les loyers sont bloqués déjà depuis fin 2020. Il y a une loi de voter un petit peu en catimini, mais qui nous indique que ces loyers sont bloqués. Donc bah, là, il n'y aura pas le choix. Il faudra de toute façon, si vous partez sur de l'ancien dans son jus, il faudra prévoir dès le départ une enveloppe pour refaire le bien, soit tout de suite s'il est libre, soit à la faveur d'un changement de locataire, pour le refaire effectivement de fond en comble, tout ce qui est électricité et surtout isolation. Donc ça, ce sera à prévoir pour ceux qui préfèrent l'ancien. Le facteur travaux sera absolument obligatoire si on veut effectivement continuer à louer. Donc là, il n'y aura pas le choix.
Et si je veux bénéficier des primes qui sont mises en place par le gouvernement, justement pour inciter avant l'obligation légale de 2023, je prends des professionnels RGE, je crois.
Voilà, il faut, pour pouvoir notamment profiter de la prime, ma prime Rénov, etc., des professionnels qualifiés, RGE, etc. Et voilà, donc ça, la prime Rénov, pour la première fois, pour les bailleurs, on a quand même des primes qui sont assez significatives. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et donc, on pourra bénéficier de ça. Il faut se dépêcher en bénéficier parce que quand ce sera obligatoire, il n'y aura plus de primes, hein, ça, bien
c'est
sûr.
C'est ça.
Il faut en profiter maintenant.
Alors, ce sujet est ô combien passionnant, cher Stéphane, mais le temps file.
Oui.
Si, en deux mots, je n'ai pas envie de choisir, qu'est-ce que je peux faire ?
Alors, l'idéal, si vous avez un budget qui vous permet d'acheter deux biens, l'idéal, c'est de pouvoir cumuler les avantages de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de pouvoir réaliser en même temps ou à quelques mois ou années d'intervalle une opération dans l'ancien à forte rentabilité, donc là c'est super, parce que vous avez beaucoup de rendement et vous pouvez avoir dès le départ, sans apport personnel, un loyer qui va couvrir votre mensualité.
Donc, bon, Ce qui est quand même génial.
Là, c'est quand même super. Mais ça va vous créer de l'impôt. Mais cet impôt, vous le gommez en faisant une autre opération, soit dans l'ancien avec beaucoup de travaux, soit en neuf type Pinel, et auquel cas vos revenus, vos forts revenus qui devraient être fiscalisés sur votre première opération vont être absorbés par votre deuxième opération, avec notamment beaucoup de travaux. Donc là, c'est le meilleur des deux mondes, puisque vous avez un fort rendement qui va être absorbé par les travaux sur une deuxième opération ou sur une opération en Pinel avec réduction d'impôt. Donc là, c'est super, c'est le meilleur des deux mondes, et c'est 1 plus 1 égale 3.
Voilà. C'est ça, donc, un mécanisme compensatoire entre mes deux biens.
Tout à fait.
Donc je vais pouvoir, je ne suis pas obligée de choisir, en fait, et je vais tirer profit de ce mixte.
Tout à fait.
Donc, très bien.
Ça, c'est l'idéal.
Eh bien, écoutez, je pense que nos auditeurs auront bien compris. Merci vraiment pour ces éclairages. Avant de clore cette émission, est-ce que vous avez une petite anecdote, mon cher Stéphane
ou... Oui, une anecdote assez sympa sur Equimix, là, pour le coup, le neuf et l'ancien. Figurez-vous que, alors, on a eu le grand privilège, hein, j'hésite pas à le dire, à participer à la commercialisation d'une opération extrêmement... une très très belle opération à Maison Lafitte, juste à côté du château, c'est l'hôtel royal à Maison Lafitte, qui était une opération en monument historique, un très bel immeuble, un ancien immeuble, début 20e, vraiment très très beau, par l'architecte qui a fait notamment le Negresco, donc vraiment un très très bel immeuble avec un parc somptueux à Maison Lafitte, un secteur très coté, et ce qui était intéressant sur cette opération, c'est que il y avait une partie neuve, c'est-à-dire que le dernier étage, il y a des investisseurs ou des propriétaires qui ont pu acheter des appartements neufs qui ont été faits donc, sur cette opération, l'Hôtel Royal à Maison Lafitte. Mais ce qui était intéressant, c'est que comme c'est une opération monument historique, les architectes des bâtiments de France ont autorisé à rajouter un étage sur cet immeuble parce qu'il y avait eu un dépôt de permis en 1927.
Oh là là, incroyable.
Voilà, un dépôt de permis en 1927. Et donc, les architectes des bâtiments de France ont dit bah, « Écoutez, pourquoi pas, mais vous repartez exactement sur ce permis-là. » Donc sur le permis qui avait été déposé en 1927 avec un toit mansarde très joli, ce qui fait que on a eu des acheteurs qui ont eu ce privilège incroyable d'acheter du neuf
sur de l'ancien
sur un bâtiment en monument historique, donc avec un permis de 1927.
Incroyable qu'il n'y ait pas de prescription
plus,
sur un permis de 1927.
Alors, bien sûr il était prescrit, mais comme effectivement il avait été conçu à l'époque tout à fait dans l'esprit du bâtiment, dans les règles de l'art. Donc voilà, du neuf sur un permis de 1927, c'était assez sympa. Puis je ne raconte pas l'emplacement avec vue sur le château de Maison Lafitte, avec le parc en bas. Vraiment une très, très belle réalisation.
Je ne peux qu'imaginer, mais ça fait rêver.
Oui, tout à
bon,
fait.
En tout cas, notre émission touche à sa fin. Merci Stéphane, vraiment, d'avoir éclairé nos lanternes sur cette question cruciale, puisque dès que ça touche un peu à la fiscalité, ça peut vite être imbuvable. Et là, c'était très, très clair. Donc merci beaucoup à vous.
Je vous en prie.
Merci à la technique. Merci à vous, auditeurs. On se retrouve le mercredi 27 mai à 10h10 pour le prochain numéro de La Maison de l'Investisseur. À très bientôt sur Radio Immo.
La Maison de l'Investisseur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.